Bon réveil à tous, voici le journal de Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. C'est une étincelle qui a embrasé la toile et déclenché un mouvement mondial de libération de la parole des femmes. Il y a un an, jour pour jour, le New York Times sortait l'affaire Weinstein. Où en est-on aujourd'hui? Nous ferons un état des lieux avec Mariam El Kurdi.
Alors qu'aux États-Unis, les sénateurs républicains s'apprêtent à voter oui pour nommer Brett Kavanaugh à la Cour suprême en s'appuyant sur le rapport du FBI qui n'apporterait pas d'éléments supplémentaires aux accusations d'agression sexuelle.
Nous irons au Brésil dans ce journal et nous verrons comment le candidat d'extrême droite réussit encore à creuser l'écart en tête des sondages, grâce au soutien notamment des pasteurs évangéliques. Reportage à suivre. En France, après 18 ans de procédure, deux jumelles nées par GPA, gestation pour autrui, à l'étranger, vont peut-être aujourd'hui être reconnues comme les enfants des époux Manson. Une affaire emblématique, plus de précisions à suivre.
Devant le Conseil constitutionnel hier, Emmanuel Macron a réaffirmé sa volonté de réformer dans la tourmente après la démission de poids lourd du gouvernement et l'affaire Benalla. Analyse avec Stéphane Robert dans un instant.
Alors que dans son billet politique, Frédéric Seyss se penchera sur l'état du Parti Socialiste après les déclarations notamment de Martine Aubry sur la violence dans certains quartiers populaires. Le Parti Socialiste est-il devenu un parti sécuritaire? Ce sera juste après ce journal. On commence avec une affaire emblématique. Il y a un an, jour pour jour, c'était le point de départ d'un mouvement mondial de libération de la parole des femmes dans le sillage du hashtag MeToo. Le New York Times publiait les premiers témoignages de l'affaire Weinstein du nom du producteur le plus puissant d'Hollywood à l'époque. Un an après, où en est-on de ce mouvement dans le monde? Les précisions de Mariam El Kurdi.
Le hashtag MeToo est lancé à l'origine par l'actrice américaine Alyssa Milano en octobre 2017. Dès le premier jour, elle est retweetée 200 000 fois. Aux États-Unis, toujours où l'affaire Weinstein naît, des personnalités dénoncent haut et fort le harcèlement sexuel pour la première fois. Discours marquant notamment de l'actrice Nicole Kidman en janvier 2018 lors de la cérémonie du Golden Globe.
Ces personnages que nous jouons représentent quelque chose qui est au cœur de notre conversation à l'heure actuelle, les agressions. Cette conversation, elle doit continuer.
Le mouvement MeToo libère la voix de millions d'anonymes à travers le monde, sur les réseaux sociaux et dans les médias. En France notamment, où le mouvement porte aussi le nom « Balance ton porc ».
Quand j'avais 11 ans, j'étais en 6e, j'ai eu un prof qui insistait pour que je me mette en jupe et en robe. Chaque fois qu'on allait avoir cours, il m'a proposé plusieurs fois qu'on se voit en dehors du collège.
En France toujours, le mouvement fait avancer la loi sur le harcèlement de rue. Désormais, les outrages sexistes sont passibles d'une amende. Aux quatre coins du globe, le mouvement ouvre des discussions publiques. En Italie, il se décline sous la forme « Quella Voltace ». Cette fois, où au Brésil, pays du football, les femmes dénoncent le machisme ordinaire de leur société. Au Maghreb et au Moyen-Orient, les filles brisent le silence qui d'habitude fait loi. En Égypte, elles ne manquent pas de rappeler que 99% des Égyptiennes ont été victimes de harcèlement en 2013, d'après l'ONU. En Chine, le mouvement est plus lent à cause de la censure. Du coup, les internautes s'expriment derrière le hashtag Rice Bunny. Ces deux mots se prononcent en effet MeToo en mandarin. En quelques mois, plus de 2 millions de visiteurs sur la page consacrée à ces discussions. Plus globalement, des affaires n'auraient jamais éclaté sur le mouvement MeToo, la preuve récemment avec le scandale Kavanaugh aux États-Unis.
Mais justement, les sénateurs républicains se disent désormais tous prêts à voter oui pour la nomination du juge Brett Kavanaugh à la Cour suprême aujourd'hui, car selon eux, le rapport du FBI n'apporterait pas d'éléments supplémentaires permettant de confirmer les accusations d'agression sexuelle. À New York, Loïc Louis.
Toute la journée, les sénateurs américains ont défilé pour consulter le fameux rapport confidentiel. Le FBI était appelé à fournir plus d'éléments aux parlementaires amenés à trancher. Son enquête a surtout conforté les deux camps dans leur certitude. Espérons que dans 48 heures, nous aurons un nouvel arrivant à la Cour suprême. Voilà ce qu'affirme ainsi le républicain Chuck Grassley à la tête de la commission judiciaire. Plus important, la position de Jeff Flake, républicain mais indécis. L'enquête, assure-t-il, n'apporte rien de nouveau. Et pour cause, rétorque les démocrates, les recherches ont été bâclées en moins d'une semaine. Pire, la Maison-Blanche aurait restreint le champ d'investigation du FBI. Il est vrai que ni Brett Kavanaugh ni sa première victime présumée, Christine Blasey Ford, n'ont été interrogées. Idem pour des dizaines de personnes témoins potentiels qui se seraient manifestées. En l'état, Brett Kavanaugh pourrait donc être l'objet d'un vote de procédure dès ce matin, avant une confirmation finale ce week-end, et on ne voit pas ce qui pourrait l'empêcher d'accéder à la Cour suprême.
Ne trahissez pas les femmes, votez non, ont crié hier des milliers de manifestants rassemblés à Washington contre le juge Kavanaugh.
8h04 sur France Culture, la suite du journal de Sophie Delpont. Les Occidentaux se coordonnent pour accuser Moscou de cyberattaques de grande ampleur.
Comme un vent de guerre froide qui semble souffler, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie et la France accusent le Kremlin d'offensives majeures sur Internet, notamment contre l'OIAC, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Moscou fustige de son côté ce qu'elle considère comme une poussée d'espionnite aiguë. Claude Bruyot.
La dérision d'un côté, les dénégations habituelles de l'autre. Dans un exercice désormais bien rodé, le porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, soulignait avec ironie l'imagination des Occidentaux qui mélange, a-t-elle précisé, sous l'étiquette de cyberattaque à la fois l'Agence mondiale antidopage et l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Des inventions dignes des contes d'Andersen, a poursuivi l'intéressé, pendant que depuis le Conseil de la Fédération, la chambre haute du Parlement russe, il était question à travers ces accusations de cyberattaque, de ressortir opportunément la rhétorique anti-russe pour nourrir la campagne des élections à mi-mandat aux USA. Tout cela ne correspond pour le Kremlin qu'à de la propagande, et comme pour mieux démontrer le caractère imperméable, voire imperturbable de ces postures, le pouvoir russe annonçait dès hier soir s'attendre à de nouvelles accusations du même ordre dans les prochains jours.
Claude Bruyot à Moscou pour France Culture. Les États-Unis accusent la Chine d'ingérence dans les élections de mi-mandat. Pékin réplique ce matin et estime injustifiées et ridicules ces déclarations du vice-président américain Mike Pence. L'Italie a ramené sa prévision de croissance pour cette année de 1,5% à 1,2% selon un document du gouvernement publié aujourd'hui. Alors qu'on apprend que Mario Draghi, le président de la Banque centrale italienne, a rencontré le président italien Sergio Mattarella mercredi, mettant en avant les risques qui seraient liés à une réaction négative des marchés au nouveau budget du pays. Toyota rappelle 2,4 millions de voitures hybrides dans le monde, un mois après avoir déjà dû rappeler plus d'un million de véhicules de cette même technologie à double motorisation et sans électricité. Le constructeur automobile japonais évoque dans un communiqué un problème de fonctionnement du système hybride qui peut entraîner un risque d'accident. Direction maintenant le Brésil, où le candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro confirme sa place de grand favori dans les sondages pour le premier tour de l'élection présidentielle dimanche, avec plus de 30% d'intention de vote. Il creuse l'écart même face au candidat du Parti des Travailleurs, misant sur le rejet des partis traditionnels, mais aussi grâce au soutien des pasteurs évangéliques très puissants dans le pays. Olivier Poujade, envoyé spécial de France Culture au Brésil.
J'ai la foi en Dieu, en Jésus et le Saint-Esprit.
Carlos est un fidèle de l'Église universelle du Royaume de Dieu depuis 3 ans. Dimanche pour le premier tour, il suivra les consignes données par l'évêque macédoine.
Les hommes politiques actuels ont pillé le Brésil. C'est pour ça qu'on doit finir avec cette race traditionnelle de la politique.
Bolsonaro serait donc le candidat du renouveau, malgré 27 ans de mandat en tant que député. Mais ce sont les consignes. Des consignes que Gerson ne voit pas d'un bon œil. Lui aussi sort de l'Église universelle. Il se dit avant tout fidèle à Dieu, pas à ceux qui, comme Bolsonaro, se sont convertis pour des raisons politiques.
Je n'accepte pas que Bolsonaro prie. Parce que quand il arrivera au pouvoir, il va changer de visage.
Comme la société brésilienne, le culte évangélique est aujourd'hui fragmenté. Monica Francisco est candidate à un mandat de députée de l'État de Rio. Elle est aussi pasteur à l'église presbytérienne du Brésil. Elle ne comprend pas ce mariage entre une partie des évangéliques et Jair Bolsonaro, candidat en faveur de la libéralisation des armes.
Le discours de Bolsonaro est un discours de réponse rapide à des situations complexes. Donc si l'Église prêche l'amour, elle ne peut pas prêcher en faveur de la mort. C'est un contresens. Et c'est pour ça que je dois m'opposer à ces gens-là.
D'après les derniers sondages, 34% du vote évangélique irait en faveur de Jair Bolsonaro. Mais rien ne dit que ses fidèles obéiront à ses enquêtes d'opinion.
Olivier Poujade au Brésil pour France Culture. Le grand reportage ce soir sera consacré au droit des jeunes filles à disposer de leur corps en Côte d'Ivoire. Ne pas être maman à 13 ans, c'est mon choix, c'est mon droit. C'est le titre de ce grand reportage de France Culture. Médecins du Monde s'investit pour la santé des filles en Côte d'Ivoire avec les autorités et les associations sur place. L'ONG aide les adolescentes qui tombent enceintes pendant leur scolarité. Elles sont environ 4000 par an, en particulier dans les campagnes, comme l'explique cette sage-femme rencontrée à Soubré, dans le sud-ouest du pays, à 7 heures de route d'Abidjan, un reportage qui sera signé Nadine Epstein.
Je m'appelle Roselyne Zérignon, Lili Bali, et je suis sage-femme, coordinatrice santé mère-enfant au district sanitaire de Soubré. Nos jeunes filles sont beaucoup exposées. exposées aux grossesses non désirées. Elles n'ont pas suffisamment d'informations sur les méthodes de contraception. Et nous faisons tout ce que nous pouvons pour les informer. Et si elles ont l'information et qu'elles arrivent à bien se comporter, à voir, parce qu'on leur demande d'abord de l'abstinence, les jeunes filles. Si tu n'as pas fait de rapport sexuel, tu ne peux pas te retrouver enceinte. Maintenant, pour celles qui sont sexuellement actives, on leur demande d'utiliser un préservatif au cours des rapports sexuels pour éviter non seulement les infections sexuellement transmissibles et aussi le VIH-SIDA et éviter encore les grossesses non désirées. Sinon, les jeunes filles sont beaucoup exposées. Il y a la pauvreté, elles n'ont pas suffisamment d'argent. Étant seules, les parents sont venus les laisser en ville. Elles n'ont pas de moyens et elles s'adonnent à des pratiques un peu difficiles. Donc vraiment, nous sensibilisons au maximum pour que ces jeunes filles-là aient l'information sur ce que c'est que la contraception.
Le grand reportage signé Nadine Epstein et Annie Bro, ce sera ce soir à 17h sur France Culture. Un grand reportage présenté par Aurélie Kiefer.
8h11 sur France Culture, la suite du journal de Sophie Delpont. Devant le Conseil constitutionnel hier, Emmanuel Macron a réaffirmé sa volonté de réformer dans la tourmente après la démission de poids lourd du gouvernement et l'affaire Benalla. Analyse avec Stéphane Robert dans un instant.
Oui, et même tout de suite.
Avec l'affaire Benalla, la démission de Nicolas Hulot puis celle de Gérard Collomb, le président de la République a conscience qu'il a plus subi les événements qu'il ne les a maîtrisés ces dernières semaines. Et il sait que le doute a commencé à s'installer dans l'esprit des Français, mais il estime malgré tout que cette situation n'entrave pas sa capacité d'action.
Je sais les tempêtes et les avanies que notre époque réserve à ses dirigeants politiques, et particulièrement aux premiers d'entre eux. L'impatience et l'exigence, la tyrannie de l'immédiat, le règne de l'image et le goût pour l'écume des jours n'aident pas forcément à mener une action sereine pour qui céderait à cette tyrannie. Mais aucun président de la Ve République n'en a été préservé. Jusqu'au général de Gaulle lui-même. Qu'on ne prétende pas gouverner la France, ni même la présider, si l'on n'est pas prêt aux déferlantes et aux vents contraires. Il faut tout ignorer de notre pays pour espérer une mer d'huile. L'important est ici de conserver le cap, et nos institutions nous le permettent.
Emmanuel Macron s'estime donc protégé par les institutions. Elle lui offre un mandat de 5 ans et la légitimité du suffrage universel. Et c'est en vertu de cette légitimité qu'il entend continuer à réformer le pays. Pour ça, il lui faudra quand même rassurer les Français, notamment sur sa capacité à réaffirmer son autorité sur le gouvernement, à y nommer des personnalités solides et compétentes, et puis à conserver une majorité fidèle à l'Assemblée nationale. Et enfin, Emmanuel Macron est attendu sur sa promesse de redressement de l'économie française. Pour ça, il demande du temps, le temps nécessaire pour que les différentes réformes engagées commencent à produire leurs effets. Mais sur ce plan-là, les Français se montrent de plus en plus impatients et les prévisions de croissance pour l'année prochaine ne sont pas vraiment encourageantes.
Stéphane Robert, 8 heures de confrontation devant les prud'hommes d'Amiens. Hier, les 832 ex-salariés de Goodyear contestent le motif économique de leur licenciement et réclament une indemnisation 4 ans après la fermeture du site, au moment où le groupe réalisait un résultat net de 2,4 milliards de dollars. La décision a été mise en délibéré au 16 mai prochain. C'est une décision attendue depuis 18 ans. La Cour de cassation dira aujourd'hui si elle accepte ou non de transcrire en droit français les actes de naissance de jumelles nées par GPA, gestation pour autrui, à l'étranger. Un cas devenu emblématique, celui des époux Menson, qui multiplient les démarches pour que leur lien de filiation avec leurs jumelles soit reconnu. La notion centrale soulevée par ces interminables examens du droit, c'est celle de la mère d'intention. Mathieu Laurent.
Il faut remonter le temps pour mesurer la détermination des époux Menson et de leurs deux filles, Valentina et Fiorella, portées par Mary en Californie, née aux États-Unis, et élevées par Sylvie et Dominique en France. 2011, après une série de recours, les époux Menson essuient un refus de la Cour de cassation. 2014, il faut condamner la France par la Cour européenne des droits de l'homme. Entre 2011 et 2014, la loi a changé. Les enfants nés de GPA à l'étranger peuvent avoir deux parents légaux. Deux parents légaux à condition que le conjoint du parent biologique lance une procédure d'adoption. La mère porteuse, Mary, a bien reçu des embryons issus de gamètes de Dominique et d'un don d'ovocytes d'une amie du couple. La paternité de Dominique est donc acquise. Rien de tel pour Sylvie, car la loi française s'inspire, elle, du vieux droit romain qui dit que la mère est celle qui accouche et non la mère d'intention, qui désire et élève l'enfant sans avoir de lien biologique avec lui. Tout est là. Sylvie Menson serait alors contrainte d'adopter ses enfants, ce qui pour l'heure est impossible. Pour l'heure, car nous sommes en pleine construction du droit. L'avocat général de la Cour de cassation a exclu, il y a peu, de solliciter la Cour de Strasbourg avant de se prononcer tout à l'heure. Les lignes ne devraient pas bouger aujourd'hui. Les époux Menson continueront, eux, leur combat pour être reconnus par le droit français et père et mère de Valentina et Fiorella, 18 ans dans 3 semaines.
Mathieu Laurent, ne dites plus fake news mais information fallacieuse ou infox. Ce néologisme formé à partir des mots information et intoxication vient d'être publié au Journal officiel.
Et on évoquera justement les infox et la défiance à l'égard de la science dans quelques instants en compagnie d'Alain Prochian, chercheur en neurobiologie, et de la philosophe Bernadette Bensaud-Vincent. Comme ça on va fêter la science et puis on prépare le forum science de France Culture qui aura lieu demain à la Sorbonne et qui sera diffusé sur l'antenne vendredi prochain, Sophie.
Un hommage national rendu ce matin à Charles Aznavour, aux Invalides à Paris. Près de 2000 personnes sont attendues pour cette cérémonie en hommage aux chanteurs et comédiens. Un grand soleil sur l'ensemble de la France métropolitaine tout au long de la journée. Seule la Corse connaîtra, elle, des averses le matin, des orages l'après-midi, de la douceur dans les températures. Elles sont comprises en moyenne ce matin entre 14 et 24 degrés, avec 14 à Metz, 18 à Lyon, 24 degrés à Nice. Cet après-midi, 19 à 24 degrés du nord au sud.